traiter toute l'après-midi. Mais évidemment, on va la traiter de plus en plus profondément. Et donc, ça exigera, je trouve, une attention d'abord soutenue, et puis peut-être très méritoire. Cette question que je veux poser et à laquelle je veux essayer de répondre, c'est la question que pose Martin Heidegger à la fin de son introduction à la métaphysique. Parce qu'en fin de compte, il n'a pas trouvé de meilleure conclusion à trouver que cette question-là. Pourquoi cela est-il là plutôt qu'une autre chose? J'avoue qu'en écoutant hier les prédécesseurs, je sentais à quel point ce propos est adéquat. Parce que tout ce qu'ont dit les conférenciers que vous avez entendus jusqu'ici se rattache à cela, à cette constatation. Quand ils parlent d'un objet, ils sont passionnants, ils sont efficaces, ils sont opérants. Dès qu'ils ne parlent plus d'objet, c'est un peu n'importe quoi. Heureusement, ils ont presque essentiellement parlé d'objet. En fin de compte, on vous a parlé. D'ailleurs, on vous a parlé de la barque, de l'instrument qui navigue. Et d'en parler avec cette précision en ce qui concerne le plus haut point, je dirais, le plus haut point du fioton, du poisson, au 5e, 6e siècle, bien, vous nous a éclairé parfaitement sur ce qu'il y a de plus secret, de plus magnifique aussi, de plus miraculeux dans la vie des saints. En réalité, ça a commencé longtemps avant, ça a commencé 15 siècles avant, avec Homère, avec les voyages du Nil, s'embrasser la palette, s'embrasser les histoires de Tobie, s'embrasser Jonas, s'embrasser le poète envoyé Arion avalé par un poisson géant. Et puis ça allait jusqu'aux Vikings, ça allait jusqu'aux conquêtes de l'océan, et puis jusqu'au temps moderne en réalité, où le poisson meurt, enfin meurt peut-être, mais dégénère, et où les œuvres, les navigations se terminent en naufrage, ou se terminent en révolte de l'équipage, ou bien où la grande baleine disparaît, ou bien le bateau, le grand bateau, finit par échouer dans la vague du bateau ivre, ou bien le dit bateau de Jarry entraîne la perdition de son... La fin de la barque, la fin du poisson qui caractérise notre acteur. Ces 2000 ans ou 2500 ans, en réalité, ont connu en quelque sorte de rapprocher, évidemment, avec justement la navigation grande. Parce que l'objet a été traité. Cette légende est si attachante, vous voyez en vous. Ensuite, on vous a parlé, Loïc vous a parlé, bien sûr, d'idées, d'esprit, de religion, de puritanisme, dans l'avènement de l'Amérique, mais en fin de compte, il vous a tout de même dit essentiellement, ce qu'il dit à la fin, je veux dire le taureau. Je dis le tarot comme symbole, plus que comme animaux, c'est-à-dire comme objet réel, objet de justice, je veux dire, objet d'aventure, d'invention, de création de taureau. Et peut-être est-il encore allé plus loin, je sais s'il en a dit déjà juste sur le sujet, mais s'il avait eu le temps, si au lieu d'avoir un après-midi, il aurait eu deux jours, on aurait pu continuer jusqu'à l'époque présente et pâtir tout une autre historique du 19e siècle américain sur cette dialectique-là. La dialectique de justice et la dialectique de l'aventure. Et puis, hier soir, vous avez eu un festival de masques de tchèques, qui est essentiel sur lequel se font non seulement le chamanisme ancestral, mais précisément le chamanisme qui en reste à notre époque. Et en fin de compte, s'il a encore, Jean-Paul avait pu parler plus longtemps, il aurait certainement parlé plus avant du géant, du grand pied, qui est un objet symbolique, indiscutablement. Ce matin, peut-être qu'il a été, il n'a pas été à ces questions d'objet, enfin, j'y reviendrai d'ailleurs sans doute. Mais tout de même, le petit a s'effondré, si en le disant, mais en n'accentuant pas le coin d'ancrage, en n'accentuant pas le coin d'ancrage, il s'est fondé sur la Terre. Et tu sais si c'est bien un objet que la planète, dès qu'on quitte la Terre, on ne sait plus très bien où on en est. Il faut dire la vérité. Le monde qui nous entoure, la vérité, c'est que nous n'en savons rien. Bon. Donc, dès qu'on quitte l'objet, on peut divaguer à la vie. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'objet? Ben, en dehors de l'objet, il y a l'idée. Je crois que tout a été dit sur la question par une phrase géniale d'Antonin Artaud, le fou, certainement l'un des plus grands poètes et peut-être le plus grand poète de la vie, qui après 10 ans d'asile a réussi enfin, 20 ans d'ignorance, de refus, d'oubli, puis 10 ans d'asile. Et avait quand même fini par faire une conférence géniale au Colombie au début de l'année 46. Il est mort 2 mois après. Et dans les textes que publie enfin la NRF, c'était un des revenus de ce document, 25e, il y a cette magnifique conférence d'Europe du lieu de Colombie. Et dans cette conférence, il y a une phrase étincelante, une phrase aussi extraordinaire pour cette guerre. L'objet, l'idée est une armée personnelle qu'on ne lance pas au-devant de soi au hasard, sans risquer la petite mort. Cette phrase est géniale parce qu'elle montre que l'objet, l'idée est toujours multiple à la différence de l'objet qui est simple. Elle est toujours multiple, elle est toujours plusieurs, elle est une armée. On la lance au hasard, forcément, au départ, parce qu'on la fonde sur le hasard, ou sur l'intuition, ou sur le jeu, ou sur l'action scientifique. C'est-à-dire en réalité sur n'importe quoi. Et le résultat de l'idée, là, c'est toujours la mort. Et ça, je crois qu'il y a 10 000 ans que nous savons que l'homme l'apprend difficilement, mais il n'a pas toujours pas compris. Il tient à ses idées. En fin de compte, c'est toujours la guerre, c'est toujours la révolution, c'est toujours le massacre, c'est toujours l'autodestruction. Mais apparemment, et nous verrons peut-être pourquoi, l'homme ne peut pas s'empêcher d'avoir des idées. Or, je prétends que la phrase des guerres exclut l'idée complète. Cela, pourquoi cela est-il là plutôt que l'autre chose? Il ne peut pas s'agir d'idée. Il ne peut pas s'agir d'idée, mais la phrase demeure très confuse. La question est telle qu'on ne peut pas y répondre. Et d'ailleurs, Heidegger reconnaît qu'il ne peut pas y répondre, il va chercher, bien sûr, un système pour répondre. Il va parler de connexion X, de connexion Y, reconnaissant un peu ce qui s'est en dehors, ce qui est dedans. Et puis, il va parler d'ordonnancement historique des choses, puis il va parler de la manière alchimique d'une coagulation, d'une dilapidation finale. le trou noir et le Big Bang. Mais en fin de compte, justement, ça ne donne pas matière à une réponse précise. Ça ne donne pas de matière à une réponse précise parce que, justement, ce n'est pas assez objectif. Cette définition de l'objet n'est pas assez objectif. Pourquoi cela? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que cela? Alors, vous direz, ben, c'est un verre. Mais en réalité, c'est peut-être un verre. Ça peut être un verre à bouteille, cela. Cela, pourquoi cela est-il là? Il y a au moins un objet ou deux. Il y a toujours un objet ou plusieurs. Ah, c'est ça. Alors, il faudrait dire ceci ou cela. Pourquoi ceci ou cela? Pourquoi cela est-il? Est-il, est-il? Qu'est-ce que c'est qu'être? Qu'est-ce que c'est qu'être? Est-ce que je peux dire que ce verre et cette bouteille sont? Il est évident que je les vois, je leur donne un aspect. Mais l'être tout de même, quand on parle de verre, on parle d'autre chose, on parle d'un verre ou d'une bouteille. Qu'est-ce que c'est d'être? Nous allons essayer de voir ce que c'est. Et puis, enfin, là, est-ce là? Ah, qu'est-ce que c'est que là? Ah, c'est une table. Alors, la table elle-même, c'est cela. C'est un autre cela, la table. Alors, est-ce que cela ne peut être que sur cela? Parce que là, la question n'a pas beaucoup de sens. Ça va pas bien loin. Pourquoi ces verres sont-ils sur une table et pas sur le plancher? Pourquoi bien le sens métaphysique de la question? Or, et derrière, enfin, à la fin de son introduction. Donc là, un autre sens, là, c'est, ça serait dans la chambre, dans cette chambre, dans cette pièce, dans, au Poultu, en France, en Europe, en Occident, sur la Terre, dans le système solaire, dans la galaxie. Bon, qu'est-ce que là? Donc c'est parti. Et en réalité, tout ce que font les, non seulement les philosophes, mais les poètes, et en fin de compte les véritables ésotéristes, et les véritables esprits religieux, les véritables mystiques, c'est d'essayer de répondre à la question, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est être? Et qu'est-ce que, et où est-ce là? Si nous prenons par exemple les conférences que nous avons entendues hier matin, on voit bien que il y a une dialectique au fond de chaque causerie, qui est un truc très simple, sans rien de philosophique. La dialectique, c'est « cela était comme ça ». Il y a eu la barque, il y a eu les navigations chrétiennes. Mais pourquoi est-ce que je raconte ça? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse à ce point? Ben parce que ça va peut-être continuer. Ça va peut-être continuer. On va peut-être continuer de faire de grandes navigations maritimes. Ou alors des navigations équivalentes à ce moment-là dans l'air, dans l'atmosphère. Peut-être que ça va être tout autre chose. Là. Peut-être que la navigation va plus avoir seulement d'importance. Et l'Amérique a combattu depuis deux ans, combat depuis deux siècles, combat. Entre ces deux extrêmes, entre les gens du Nord et les gens du Sud, entre les puritains et les planteurs ou les rétrogrades, est-ce que ça va continuer? Est-ce que l'Amérique va en sortir? Est-ce qu'elle va triompher de cette dialectique-là? Et puis les chamans, et puis les ponts rouges, est-ce qu'ils vont se vider? Est-ce que le mythe se assuré? Ce mythe, alors qu'est-ce que cela en revient de nous? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que nous avons dit? Eh bien, c'est évidemment le masque, la sécurité, la civilisation. Et puis, c'est aussi le géant. C'est aussi le géant en pied. Et puis, c'est aussi le souffle, le magnifique, le vent, l'air qui nous entoure. Et puis, c'est aussi bien d'autres choses, l'équilibre, la balance. Nous l'appelons la balance dans ce qui devient tel, c'est le lieu d'égalité et d'être. Alors, vous voyez, on ne peut pas décrire le passé. On ne peut pas décrire le passé sans s'interroger sur la Bible. Ça pourrait être reproché à celui qui ne doit pas avoir ouvert sur la Bible, de dire, on a compris, j'ai compris, tout est clair. Non. Il aurait fallu dire, voilà, aujourd'hui je pense, on pense, qu'est-ce qu'on va penser de ça? Ça sera sans doute une autre vision de l'univers encore, qui ne devra plus rien à Newton ou à Galilée. C'est toujours la même chose. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va continuer de penser la même chose? Ça va aller dans le même sens? Ou est-ce que ça va être quelque chose de tout à fait différent? C'est le problème. Et c'est le problème auquel on ne peut pas répondre sans répondre aux trois questions. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est fait? Où est-ce que c'est? Depuis 1000 ans, depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle plus particulièrement, il y a dans toutes les religions, les plus grandes religions, les musulmans, les chrétiens, les juifs, bien sûr, et puis aussi, de plus en plus, les rationalistes, ils ne veulent pas religion, il y a de plus en plus une seule question qui est répétée, répondue, reprise. C'est qu'est-ce qui nous attend? Quel est le Dieu qui va nous attendre? En quoi allons-nous croire demain? C'est très important parce que ça veut dire à quoi devons-nous habituer nos enfants? Qu'est-ce que nous devons éduquer à nos enfants? Qu'est-ce que nous devons leur enseigner? C'est très important. Alors, il y a des tendances, nous en verrons quelques-unes. D'une manière générale, il y a ceux qui croient qu'on va revenir. On va revenir à un autre Jésus, à retour du Christ, à retour du Messie, à une purification de l'amour dégénérée depuis 1000 ans. Et puis, c'est une croyance estimable et qu'il faut considérer comme telle. Et puis, il y a ceux qui disent que ce sera quelque chose de tout à fait différent. Ceux qui disent que ce sera quelque chose de tout à fait différent, eux-mêmes vont se partager en différents groupes. Il y a ceux qui penseront que ce sera encore un Dieu, non plus un Dieu Christ, mais en tout cas un Dieu catholique. Ce sera le Saint-Esprit. Donc ils attendent le Saint-Esprit. Le troisième, après le Père, après Jéhovah, après le Fils, Jésus, j'attends le Saint-Esprit. C'est une expérience estimable, honorable, qui a donné de grands problèmes. Et puis, ceux qui disent, pas du tout, ça n'aura rien à voir avec le catholicisme. Ça serait peut-être quelque chose de scandaleux vis-à-vis du catholicisme. Mais alors, ça sera peut-être un retour à Jéhovah, pour un peu de justice, ou alors un retour au créateur, au dieu de Sumer, au dieu de l'Éden, de création. Bon, là encore, toutes ces croyances sont estimables. Il n'y a pas de raison, a priori, de rejeter une croyance. D'autant plus que ces prophéties se réalisent simultanément. Il ne faut pas oublier ça, et c'est tout de même extraordinaire. Quand je vois Saint de Flore, prophète du XIIIe siècle, il y a une ère du Père, puis il y a une ère du Fils qui s'échelle maintenant, nous sommes au centre. Demain, ça va être le règne de l'Esprit, et on va mettre un siècle pour annoncer l'Esprit, parce que il a fallu 9 siècles pour annoncer Christ, parce qu'il avait fallu 9 siècles pour annoncer Abraham. C'est vrai, et ça se réalise, et les 9 siècles sont passés par l'attente de l'Esprit. Et on arrive un peu à l'idée, maintenant, ce fait de l'Esprit qui est beaucoup plus clair au 9e siècle. Quand on parle de l'Esprit libre, on se fait bien qu'on ne dit aucune liberté, on se voit l'Esprit. Donc c'était vrai, cette façon de considérer le Dieu futur comme un esprit, comme le Saint-Esprit, une destinée. Mais quand les prophètes historiques, je les appellerais des prophètes historiques du XVIe siècle, ce sont nos plus grands écrivains, les plus grands prophètes sont les plus grands écrivains. Au XVIe siècle, c'est Thomas More, c'est Rabelais, c'est Paracelse, c'est Nostradamus. Que disent ces hommes? Ils disent une chose curieuse pour ceux qui ne croient pas au retour des choses. dire, 60 francs, c'est pas son prix, il va falloir le siècle. D'accord? Bon, il s'est passé depuis 1260, on est en 460, je sais pas, c'est quoi, siècle. Ben, il va encore falloir 6 siècles avant. Et on voudrait bien savoir ce que ce sera, le préparer, ne pas faire des choses idiotes, ne pas faire n'importe quoi. Et ils disent, étudions l'histoire depuis les prophètes juifs, c'est-à-dire Élie, Ézéchiel, etc., jusqu'à l'avènement du Christ. Et puis on va bien voir ce qui s'est passé, et on va bien voir comment les choses ont lieu, peuvent avoir lieu. Ben, ils disent il y a eu un empire immense qui était divisé en deux puissances, c'était la Syrie et la Médie. Donc il y aura une nouvelle Assyrie, une nouvelle Médie. Du moins en 1560, elle a déjà eu lieu, ils disent que ça a été le Saint-Empire germanique. Et on arrive au terme de cette époque-là. Et après, il y a eu les Perses. Il y a eu les Perses qui ont dominé, qui ont détruit Babylone, etc. Ils ont connu l'un des plus grands empires du monde, jusque dans l'Inde et jusqu'aux sources du Nil. Alors, il va y avoir un empire perse. Et comme ils sont déjà à la fin du XVIe siècle, que Charles Quint est quand même là, que le grand empire espagnol, que Christophe Colomb a conquis l'Amérique, par contre, on a découvert. Enfin, il dit c'est l'Espagne et la Nouvelle-Terre. Bon, c'est le triomphe espagnol, le grand empire d'Autriche, l'empire de Charles Quint et de ses successeurs. C'est l'équivalent de ce qu'était l'empire perse, il y a 2000 ans. Et puis après cet empire perse, il y a eu quand même le triomphe grec, le miracle grec, qui a arrêté l'essor de la Perse, qui a colonisé presque tout l'univers connu d'alors, toute l'Anatolie, tout le Moyen-Orient, l'Italie, etc. Et donc il va y avoir un empire là qui va prendre la place des Grecs. Et là encore, ils disent, on voit bien quel est l'empire qui vit le destin des Grecs, c'est l'empire musulman. Donc ça va être les musulmans qui vont dominer pendant 2 ou 3 siècles, pendant un siècle ou deux en tout cas. Ils disent ça au début de l'expansion turque. Hein. Et l'expansion turque, en effet, va avoir lieu tout au long du XVIIe, la Perse va renaître, etc. Et il n'existera à peu près pas d'État, y compris la France. Ils ne cherchent l'alliance des Perses et des Turcs, assurés de traverser le grand empire. Puis ils disent après, en quatrième position, après les Grecs, il y a eu quand même les 2 siècles des hellénistiques, où toutes les valeurs ont semblé détruites. Où il y a eu la République partout dans le monde, où on a rejeté les rois, où les peuples se sont révoltés, où on a trouvé de nouvelles sciences, où on a réinventé le monde, avec Archimède, avec Anaximandre, avec les lois d'Archimède, les lois d'Aristote, etc. Donc il va y avoir un siècle de connaissances, d'assurance, de calme, et en même temps de libération des peuples, dont il donne la date. Donc certains donnent la date 1789, certains disent 1792. Il y aura donc un nouvel Alexandre, il y aura un nouvel État macédonien, et puis il y aura l'émiettement des pays. Comme il y avait eu l'émiettement des pays hellénistiques en deux siècles. Et puis après, ça finit par le grand État, ça finit par prendre, évidemment, au cours des siècles. Donc il y aura à l'avenir un grand État et une nouvelle ronde qui naîtra après ce temps indéniable. Il n'a pas tort, tout s'est passé comme ça. Bien qu'eux n'attendaient pas forcément l'esprit, ils attendaient peut-être autre chose. Mais ils pouvaient attendre des démons, une sorte de nouveaux démons, de nouveaux dieux des eaux, de nouveaux taureaux, de nouveaux Pierre le Grand honore le taureau, certains papes honorent Bacchus, etc. Bon, mais en tout cas, ils ne se trompent pas. C'est vrai que ça se passe comme ça.